The prophet Joseph,
Joseph Smith, le prophète, nous a donné une plus grande compréhension du pouvoir de la parole quand il a enseigné. C'est par des mots que tous les êtres agissent quand ils agissent par la foi. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Josué a parlé, et les grands luminaires que Dieu avait créés se sont arrêtés. Élie a commandé, et les cieux ont été scellés pendant 3 ans et 6 mois, et il n'a pas plu. Tout cela a été accompli par la foi, a dit le prophète Joseph. La foi, puis des œuvres par des mots. Et par des mots, ses œuvres les plus puissantes ont été et seront accomplies. Comme tous les dons et ce qui vient d'en haut, les mots sont sacrés et doivent être dits avec prudence et sous la contrainte de l'esprit. C'est avec cette conscience du pouvoir et de la sainteté des mots que je souhaite nous mettre en garde, si cela est nécessaire, concernant la manière dont nous nous parlons les uns aux autres et dont nous parlons de nous-mêmes. Il y a une ligne des apocryphes qui souligne la gravité de ce sujet mieux que je ne le pourrais. Elle dit: le coup du fouet laisse une marque dans la chair, mais le coup de la langue brise les os. Avec cette image cinglante à l'esprit, j'ai été particulièrement impressionné de lire dans le livre de Jacques qu'il y avait un moyen par lequel je pouvais devenir un homme parfait. Jacques a dit: nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Continuant l'image de la bride, il écrit: si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. Puis Jacques explique: de même, la langue est un petit membre, mais un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, placé parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammé par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Eh bien, c'est assez direct. Il est évident que Jacques ne veut pas dire que notre langue est toujours mauvaise, ni que tout ce que nous disons est plein d'un venin mortel. Mais il veut clairement dire qu'au moins certaines de nos paroles peuvent être destructrices, venimeuses même, et cela fait froid dans le dos. La voix qui rend un témoignage profond, qui murmure des prières ferventes et qui chante les cantiques de Sion, peut aussi être celle qui reproche et critique, embarrasse et rabaisse, fait mal et détruit sa propre spiritualité ainsi que celle des autres. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques se lamente. Il dit: il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Est-ce une chose à laquelle nous pouvons tous travailler? Est-ce un domaine dans lequel nous pouvons chacun essayer d'être un homme ou une femme un peu plus parfait? Marie, on vous a confié le don le plus sacré que Dieu puisse vous donner, une femme, une fille de Dieu, la mère de vos enfants, qui s'est volontairement donnée à vous pour une union d'amour et de joie. Pensez aux choses gentilles que vous disiez quand vous faisiez la cour. Pensez aux bénédictions que vous lui avez données en posant avec amour vos mains sur sa tête. Pensez au Dieu et à la déesse que vous êtes intrinsèquement. Puis, réfléchissez aux autres moments caractérisés par des mots froids, caustiques, sans retenue. Étant donné les dommages qui peuvent être causés par notre langue, il n'est pas étonnant que le Sauveur ait dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Un mari qui n'imaginerait même pas de frapper physiquement sa femme peut la briser, peut-être pas ses os, mais certainement son cœur et son esprit, par la brutalité de l'inconscience ou de la méchanceté de son langage. Les sévices physiques sont uniformément et clairement condamnés par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Si tant est qu'il soit possible de condamner encore davantage, nous nous élevons plus vigoureusement contre toute forme de sévices sexuels. Avec la même vigueur, nous nous élevons contre les sévices verbaux et émotionnels de quiconque contre quiconque, mais particulièrement du mari contre sa femme. Mes frères, ces choses ne doivent pas être. Dans le même esprit, nous nous adressons aussi aux sœurs, car le péché des sévices verbaux n'est pas propre à un sexe. Femmes, y a-t-il une langue débridée dans votre bouche? Que faites-vous du pouvoir bénéfique ou maléfique de vos paroles? Comment se fait-il qu'une voix aussi jolie, par nature divine, aussi angélique, si proche du voile, si instinctivement douce et intrinsèquement gentille, puisse subitement être si stridente, si acerbe, si mordante et indomptée? Les paroles d'une femme peuvent être plus acérées que le meilleur des poignards. Et elles peuvent pousser les gens qu'elle aime à s'abriter derrière une barrière plus distante que quiconque au début de cet échange aurait pu l'imaginer. Sœurs, il n'y a pas de place dans ce magnifique esprit qui est le vôtre pour quelque expression acerbe ou caustique, notamment le commérage, la médisance ou les réflexions désagréables. Qu'il ne soit jamais dit de notre foyer, de notre paroisse ou de notre voisinage qu'il est une langue de feu, un monde d'iniquité brûlant parmi nos membres. J'élargis cette recommandation pour en faire un sujet pour toute la famille. Nous devons faire très attention quand nous parlons à un enfant. Ce que nous disons ou ne disons pas, la manière dont nous le disons et le moment où nous le faisons sont très très importants pour former la perception qu'un enfant a de lui-même. Mais c'est encore plus important pour former la foi de cet enfant en nous et sa foi en Dieu. Adressez des paroles constructives aux enfants, toujours. Ne leur dites jamais, même en plaisantant, qu'ils sont gros, bêtes, paresseux ou pas très beaux. Vous ne le feriez pas par méchanceté, mais ils s'en souviendraient et mettraient des années à essayer de l'oublier et à pardonner. Et essayez de ne pas comparer vos enfants, même si vous pensez que vous êtes doué pour le faire. Vous pouvez dire de manière positive que Suzanne est jolie et Sandra intelligente. Mais tout ce que Suzanne retiendra est qu'elle n'est pas intelligente et que Sandra n'est pas jolie. Complimentez chaque enfant individuellement pour ce qu'il est et aidez-le à échapper à l'obsession de notre culture pour la comparaison, la compétition et le sentiment de n'être jamais à la hauteur. Dans tout cela, je pense qu'il va sans dire que les paroles négatives viennent souvent de pensées négatives, notamment de pensées négatives à notre sujet. Nous voyons nos propres fautes, nous nous critiquons en parole, ou au moins en pensée, et rapidement, c'est comme cela que nous voyons tout et tout le monde. Pas de soleil, pas de rose, pas de promesses d'espoir ou de bonheur. Rapidement, nous sommes malheureux, et notre entourage aussi. J'aime ce que Orson F. Whitney a dit un jour. L'esprit de l'Évangile est optimiste. Il fait confiance à Dieu et regarde le bon côté des choses. L'opposé, ou l'esprit pessimiste, entraîne les hommes vers le bas et loin de Dieu, regarde le côté sombre, murmure, se plaint et est lent à obéir. Honorer la déclaration du Sauveur disant « Rassurez-vous ». En fait, il me semble que nous sommes peut-être davantage coupables d'enfreindre ce commandement que presque n'importe quel autre. Parlez avec espoir. Ayez des paroles encourageantes, notamment à votre sujet. Essayez de ne pas vous plaindre, ni de vous lamenter sans cesse. Comme quelqu'un a dit un jour, même à l'âge d'or de la civilisation, quelqu'un a sans doute grommelé que tout semblait trop jaune. J'ai souvent pensé qu'il avait peut-être été plus supportable pour Néphi d'être attaché et frappé que d'avoir à entendre constamment les murmures de Laman et Lémuel. Il a sûrement dû dire « Frappez-moi encore, je peux toujours vous entendre ».
Life has its problems.
Oui, la vie a ses problèmes. Et oui, il faut affronter des choses négatives. Mais s'il vous plaît, acceptez une de mes maximes. Aucun malheur n'est dur au point qu'on ne puisse l'aggraver en se lamentant dessus. Paul l'a dit franchement, mais avec beaucoup d'espoir. Il nous a dit à tous, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans son dernier témoignage si émouvant, Néphi nous appelle à suivre le Fils d'un cœur pleinement résolu, promettant que, lorsque nous aurons reçu le baptême de feu et du Saint-Esprit, nous pourrons parler dans une langue nouvelle, oui, dans la langue des anges. Or, comment pourriez-vous parler dans la langue des anges si ce n'est par le Saint-Esprit ? A-t-il ajouté, les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. En vérité, le Christ était et est la parole, d'après Jean le Bien-Aimé, pleine de grâce et de vérité, pleine de miséricorde et de compassion. Donc, frères et sœurs, dans notre quête éternelle pour ressembler davantage à notre Sauveur, essayons d'être des hommes et des femmes parfaits dans au moins ce domaine, en n'offensant pas par des paroles ou exprimées de manière plus positive, en parlant une nouvelle langue, la langue des anges. Nos paroles, comme nos actions, doivent être remplies de foi, d'espérance et de charité. Les trois grands impératifs chrétiens dont le monde actuel a si désespérément besoin. De telles paroles, prononcées sous l'influence de l'Esprit, peuvent sécher les larmes, guérir les cœurs, élever les vies, rendre l'espoir, faire prévaloir la confiance. Je prie pour que mes paroles, même sur ce sujet difficile, puissent vous encourager, non vous décourager. Je prie pour que vous puissiez entendre à ma voix que je vous aime, car je vous aime. Plus important encore, veuillez savoir que votre Père Céleste vous aime et que son Fils unique aussi. Quand ils vous parleront, et ils le feront, ce ne sera pas dans le vent, ni dans le tremblement de la terre, ni dans le feu, mais ce sera un murmure doux et léger, une voix tendre et gentille. Ce sera dans la langue des anges. Puissions-nous tous nous réjouir à l'idée que lorsque nous disons des choses édifiantes, encourageantes à l'un de ses plus petits, nos frères, sœurs et enfants, c'est à Dieu que nous les disons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.